Les casinos de Nouméa vous offrent l'heure.
Il est 17h45.
Avec les casinos de Nouméa, découvrez deux établissements situés à Lanzvata, trois univers de jeux, trois restaurants pour des heures de plaisir. Animation, spectacle, jeu, c'est tout un univers de loisirs qui vous attend.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Il est 17h45 et c'est l'heure de faire le point sur l'actualité avec Lana Colombo et toute l'équipe d'RRB pour Info Soir.
Rémi Bastille, Thierry Lataste et Benoît Lombrière sont arrivés ce matin sur le territoire. Les trois membres de la mission des facilitateurs sont chargés de parvenir avec l'ensemble des partenaires à un accord consensuel sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Les agresseurs du septuagénaire à la fois, en fin de semaine dernière, sont toujours dans la nature. Les forces de l'ordre et la mairie appellent tout témoin ayant des informations à se manifester. Un obus découvert sur un chantier à Nouméa ce midi. C'est un conducteur de pelleteuse qui a trouvé l'engin dans le quartier de l'artillerie, au cœur d'une enceinte militaire. La suite de la dernière session d'assises de l'année à Nouméa. Les jurés se penchent depuis ce matin sur l'assassinat d'un homme lors d'une fête d'anniversaire. L'accusé de 32 ans encourt jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Le sport, nous avons consacré notre Mac des sports de ce midi au handball. Nous sommes revenus avec nos invités sur les débuts brillants de Suzanne Wajoka lors du mondial de hand féminin. C'est à Spas aux Pays-Bas. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La mission des facilitateurs est arrivée aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Rémi Bastille, Thierry Lataste et Benoît Lombrière ont commencé leurs entretiens avec les différents groupes politiques, mais rien n'a filtré de ces échanges qui sont soumis à la plus grande confidentialité. Ils sont chargés de parvenir avec l'ensemble des partenaires à un accord consensuel sur l'avenir du territoire. Elisabeth Noir.
Les trois fonctionnaires sont mandatés par le Premier ministre et la ministre des Outre-mer pour lever les ambiguïtés, consolider le texte de l'accord de Bougival et favoriser l'adhésion la plus large possible. Et la première conséquence de leur venue, c'est une évolution du calendrier de présentation du projet de loi sur la consultation des Calédoniens. La séance publique du Congrès, qui était prévue initialement mercredi le 3 décembre, est reportée au lundi 8 décembre à 14h. C'est ce jour-là que les élus du Congrès devront donner leur avis sur le projet de loi organisant une consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie. C'est en fait tout le calendrier de l'examen du texte qui est légèrement décalé. Dans la lettre de mission qu'elle a envoyée à Rémi Bastille, Thierry Lataste et Benoît Lombrière, la ministre des Outre-mer écrit que l'État souhaite continuer à avancer sur la stabilisation des institutions de la Nouvelle-Calédonie dans un dialogue respectueux de chacun, sans passage en force, mais sans paralysie non plus. C'est la raison pour laquelle, écrit-elle, je vous demande de bien vouloir vous rendre sur place le plus rapidement possible, me faire part de vos suggestions d'ici une quinzaine de jours. Le délai de la mission est donc cadré. Naïma Moutchou indique qu'elle a demandé au président de la République et au Premier ministre, qui l'ont accepté, de décaler la présentation du projet de loi organisant la consultation anticipée des Calédoniens au Conseil des ministres du 17 décembre, afin que le Congrès de la Calédonie puisse délibérer sur celui-ci une fois les éventuels éclaircissements, ajustements ou compléments connus de tous. Un décalage d'une semaine que Naïma Moutchou avait déjà annoncé à la présidente du Congrès, Vailma Falayo. Le projet de loi sera examiné en Conseil des ministres le 17 décembre et non plus le 10 décembre. Dans sa lettre à la présidente du Congrès, Naïma Moutchou donnait deux autres éléments de calendrier. Le Conseil d'État se prononcera sur le texte le 11 décembre et non le 4 comme cela a été prévu initialement. Et le projet de loi organisant la consultation devrait être présenté début janvier au Parlement.
Les facilitateurs sont donc chargés de parvenir avec l'ensemble des partenaires à un accord consensuel sur l'avenir du territoire. Ils sont mandatés par le Premier ministre et la ministre des Outre-mer pour lever les ambiguïtés, consolider le texte et favoriser l'adhésion la plus large possible. C'est ce que confirme la lettre de mission que leur a adressée la ministre des Outre-mer.
On rappelle que cette mission est composée du préfet du Doubs, Rémi Bastille, de l'ancien haut-commissaire Thierry Lataste et de l'ancien conseiller outre-mer de Nicolas Sarkozy, Benoît Lombrière. Rémi Bastille et Benoît Lombrière qui ont d'ailleurs participé très directement aux négociations de Bougival. Dans le courrier qu'elle leur a adressé, Naïma Moutchou précise qu'elle leur a confié une mission d'écoute des responsables politiques, économiques et sociaux de la Nouvelle-Calédonie en vue de proposer au gouvernement les éclaircissements, ajustements ou compléments qu'ils estimeraient nécessaires. Dès lors, et c'est important, dès lors que ceci permettrait de renforcer l'adhésion actuelle au texte de l'accord, sans en altérer l'architecture générale et dans le respect du mandat que les Calédoniens nous ont confié à l'issue des 3 référendums. La ministre des Outre-mer qui rappelle que les Calédoniens ont fait part de leur volonté de continuer à inscrire la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble français.
Et dans ce courrier aux 3 hauts fonctionnaires, la ministre des Outre-mer annonce aussi une autre mission.
On le sait, le processus de Bougival est compliqué et il nécessite tout un processus législatif. Naïm Amoutchou indique que les travaux d'écriture de la future loi organique statutaire et de la future loi fondamentale nécessiteront des délais supplémentaires et qu'ils mobiliseront une expertise juridique complémentaire. Elle précise en conséquence qu'ils feront l'objet d'une autre mission qui sera désignée dans un second temps et que ces textes n'entrent donc pas dans le champ de la mission des facilitateurs. Et puis, autre précision de la ministre des Outre-mer, elle ajoute qu'elle aura l'occasion d'annoncer avec le Premier ministre dans les prochains jours les contours d'un plan de relance ambitieux de l'économie calédonienne, un plan de relance qui sera basé sur les travaux et recommandations de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Pensez-vous que la mission des facilitateurs composée, je le rappelle, de Thierry Lataste, de Rémi Basti et de Benoît Lombrière va permettre de sauver l'accord de Bougival? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La route a encore fait une victime ce matin à Touau-Mission. 2 pick-up sont entrés en collision vers 7h. Malheureusement, la conductrice de l'un des véhicules est décédé sur le coup et son bébé qui se trouvait à bord a été transporté au dispensaire. Le conducteur de l'autre véhicule, gravement blessé, a été transporté au CHT mais son pronostic vital n'était pas engagé. Son passager n'a été que légèrement blessé. 31 personnes ont trouvé la mort sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. Et l'émotion à la fois. Vendredi matin, un septuagénaire s'est fait agresser sur le parking d'un commerce et sa voiture a été volée, Jean-François Baudin.
Oui, au cours du vol, l'homme a été blessé au cours de cette agression. Rapidement, Florence Roland, le maire de la Foix, a publié un communiqué pour exprimer son soutien à la victime et à sa famille. Et elle a également lancé un appel à témoins. Aujourd'hui, l'état physique de la victime s'est stabilisé, mais l'homme reste choqué. Écoutez le maire de la Foix.
Aujourd'hui, son état s'est stabilisé. Mais c'est juste inacceptable et certainement ce monsieur ne s'en remettra pas comme cela. Je veux redire aussi tout ce soutien à la famille. Je crois que nous sommes tous en colère, nous sommes dans l'incompréhension, mais à la fois on est aussi solidaires, donc nous ne les laisserons pas seuls, bien évidemment. Nous avons toutes et tous manifesté un soutien fort à la famille. C'est quand même des faits d'une violence inouïe. Je le rappelle, c'est un homme qui a plus de 70 ans. Donc c'est une personne vulnérable, c'est à nos yeux une agression gratuite, lâche, qui est aussi révélatrice depuis les émeutes de faits violents, complètement décomplexés en pleine journée. C'est l'ensemble de la population lafoyenne qui est indignée parce qu'on vit paisiblement en brousse. Il est impossible de penser qu'on pourrait être suivi à sa voiture à 10h du matin en portant ses courses. Ça pour nous c'est inacceptable, ça suffit.
Les agresseurs sont toujours dans la nature, mais l'enquête semble avancer, notamment grâce aux témoignages et aux images du réseau des 18 caméras de vidéosurveillance installées sur la commune.
Ce qu'on peut dire, c'est que grâce au réseau de vidéoprotection et à la participation de plusieurs témoins, on a pu identifier un des individus. Là, on parle de personnes qui habitent sur d'autres communes. On parle d'adultes qui ont plus de 30 ans, qui sont déjà connus des services. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une question de temps. Nous faisons confiance aux forces de gendarmerie pour que ces personnes soient appréhendées le plus rapidement possible. Nous devons interpeller ces auteurs-là et les moyens sont mis en place aussi bien des services de l'État qu'au niveau de la mairie. Donc on attend une réponse forte aussi de la justice.
L'Amicale des retraités des communes rurales a également souhaité exprimer sa vive émotion et son soutien à la victime dans un communiqué. Nous apportons, je cite, toute notre sympathie et notre soutien à son épouse, ses enfants et sa famille. Nous lui adressons également nos voeux de rétablissement complet. Fin de citation.
Un officier du RSMA en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte en fin de semaine dernière. Cet officier a été mis en examen pour viol et agression sexuelle entre 2024 et 2025. Ce militaire clame son innocence et a d'ailleurs fait appel de la décision de placement en détention provisoire. Maître Barbara Brunard, avocate du mis en cause.
C'est une décision que nous avons contestée. Je voudrais rappeler que la détention provisoire, c'est une mesure qui doit rester l'exception. Quand on n'a pas d'autre choix, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui doivent être remplis pour que la détention provisoire puisse être prononcée. Et dans le cas de mon client, ces critères ne sont pas remplis. Mon client, il s'est exprimé au cours de sa garde à vue et au cours de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction. Il est important de rappeler, bien sûr, qu'il bénéficie, comme tous les citoyens, de la présomption d'innocence. On a un juge d'instruction qui va maintenant instruire son dossier à charge et à décharge, donc il va faire son enquête pour voir quels sont les éléments qui peuvent être retenus ou qui ne doivent pas être retenus contre lui. Et il ne faut pas oublier, vous savez, on a des exemples quand même très récents de décisions judiciaires avec des personnes qui avaient été mises en examen, qui ont été traduites devant la justice et finalement qui ont été relaxées. Donc il faut laisser l'enquête se poursuivre sans porter de jugement hâtif.
Le jugement concernant la détention provisoire du mis en cause devrait avoir lieu sous 15 jours. Et je vous le disais en titre, un obus a été découvert sur un chantier à Nouméa ce lundi à la mi-journée. C'est un conducteur de pelleteuse qui a trouvé l'engin dans le quartier de l'artillerie au cœur de l'enceinte militaire. Des démineurs du Nedex sont rapidement intervenus pour sécuriser la zone et prendre en charge le projectile. Il est 17h56, première pause avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Info soir, Léana Colombo.
Le service national volontaire annoncé la semaine dernière par Emmanuel Macron concerne non seulement la métropole, mais aussi les Outre-mer. Et c'est donc un service qui va aussi être mis en place en Nouvelle-Calédonie, Jean-François Bodin.
Oui, rappelons que ce service national ne sera pas obligatoire puisqu'il se fera sur la base du volontariat. Il s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans avec un effort particulier sur les 18-19 ans qui effectueront 10 mois de service, dont un mois de classe en début de parcours. La seule différence par rapport à la métropole, c'est que ce service sera mise en œuvre un peu plus tard en Nouvelle-Calédonie, nous a expliqué le général Soubrier, le commandant supérieur des FANC.
Le service national va être parallèle au rythme scolaire en métropole. C'est pourquoi l'annonce a été faite à partir de septembre 2026. Nous, avec la particularité du rythme scolaire calédonien qui débute au mois de février, nous serons concernés par la mise en place de ce service national qu'à compter de février-mars 2027.
L'entrée en vigueur de ce nouveau service national se fera donc début 2027. Mais si des jeunes Calédoniens sont déjà intéressés, ils pourront bénéficier dès l'an prochain d'un dispositif propre à la Nouvelle-Calédonie, nous a dit le général Soubrier.
Nous avons déjà un dispositif précurseur qui a été expérimenté au début de l'année 2025, qui est le parcours volontaire découverte de l'armée de terre et qui finalement est un élément préfigurateur de ce que sera le service national sur le territoire calédonien et bien sûr s'intéressera aussi Wallis et Futuna, puisque ce dispositif volontaire découverte de l'armée de terre sera reconduit à partir de mars 2026. Nous aurons 30 jeunes qui seront entre les mains du RIMAPNC et qui pour une durée de 4 mois pour le moment seront immergés au sein de nos forces.
Le commandant supérieur des FANC rappelle que ce service national volontaire est différent du SMA, dont la vocation reste l'insertion professionnelle des stagiaires, et il explique quels sont les objectifs que poursuit le nouveau service volontaire.
Tout d'abord, c'est d'entretenir l'esprit de défense, en rendant plus proche ce lien entre l'armée et la nation. Deuxième vocation, c'est participer à la sécurité collective. Donc, comme je le précisais, il s'agit bien d'une mission sur le territoire national au profit du territoire et de la population. Et troisième objectif, c'est la transmission de valeurs, c'est la formation de ces jeunes à des valeurs militaires que sont le respect, la discipline, la cohésion, le dépassement de soi et qui contribueront précisément à la montée en valeur, en qualité de ces jeunes qui passeront au sein de ce service de 10 mois.
Et les jeunes qui sont intéressés par le nouveau service national peuvent d'ores et déjà se rapprocher du CIRFA, le centre d'information et de recrutement des forces armées, qui se situe à la caserne Galipas-Bosc. Il pourra leur fournir tous les renseignements nécessaires pour effectuer leur démarche.
L'actualité judiciaire, marquée aujourd'hui par un procès aux assises, un trentenaire est accusé d'avoir tué un homme lors d'une soirée largement alcoolisée. Les faits se sont déroulés le 10 septembre 2023 à Kouaoua.
À ce jour-là, les protagonistes étaient réunis pour célébrer l'anniversaire d'une jeune fille lorsqu'une altercation a éclaté entre la victime et son neveu, conflit auquel vient se mêler l'accusé sur fond d'alcool une fois encore. Le mis en cause assène plusieurs coups à la victime qui finit par tomber violemment sur le sol. Il reçoit alors un coup de pied à la tête. Inconscient, il sera transporté au dispensaire puis au Medipôle où il décédera trois jours plus tard dans la nuit du 13 au 14 septembre. Ce matin, la tension était palpable dans la salle du procès. Le père de la victime a même quitté la salle lors de l'énoncé du déroulé des faits. De son côté, l'accusé est apparu agité. Il fuyait le regard de la présidente du tribunal. Lorsqu'elle cherchait à connaître sa personnalité, il était hésitant et parlait d'une enfance difficile pendant laquelle il a grandi avec un oncle violent. Il a commencé à consommer des stupéfiants à l'âge de 9 ans et exclu de l'école avant d'obtenir un diplôme. Il se décrit finalement comme tranquille et gentil. Des adjectifs pourtant remis en cause par l'avocat général qui a passé en revue les 17 condamnations de l'accusé, dont 4 pour des faits de violence aggravée. C'est quasiment une condamnation par an depuis 2011. À l'époque, il était à peine majeur. Aujourd'hui, l'accusé a 32 ans, il est père d'un enfant. Sa victime était âgée d'une quarantaine d'années en 2023, père de 3 enfants et avait aussi été condamné pour des faits de violence volontaire par le passé. Le procès se poursuit demain.
Et également, Jean-François a apaisé les tensions et sortir de la crise. C'est la volonté du vice-recteur qui se rendra demain au collège de Conay. Depuis la semaine dernière, des parents d'élèves de l'UGPE organisent un sit-in devant l'établissement et demandent le départ de la directrice.
À l'origine de ces tensions, une élève est victime de harcèlement de la part de plusieurs autres élèves de l'établissement. Comme c'est le cas dans ce genre d'affaires, la direction du collège a engagé les discussions nécessaires auprès des jeunes concernés pour leur faire comprendre la gravité de leur comportement. Pour éviter d'envenimer la situation, aucune décision disciplinaire n'a été engagée à leur encontre. Mais certains parents d'élèves concernés n'ont pas accepté que leur enfant soit mis en cause. L'affaire a pris de l'ampleur et l'UGPE a donc organisé un sit-in qui est entré ce matin dans sa deuxième semaine. Le vice-recteur a donc annoncé qu'il se rendait sur place demain. Dans un communiqué, Didier Vindatich exprime son plein soutien à l'équipe de direction et au personnel du collège de Conay qui sont confrontés depuis plusieurs semaines, écrit-il, à des propos excessifs et diffamatoires diffusés sur les réseaux sociaux ou des banderoles déployées devant l'établissement. Le vice-recteur rappelle par ailleurs qu'un établissement public d'enseignement de la Nouvelle-Calédonie est un lieu d'apprentissage, de respect et de neutralité et que toute forme de pression ou d'intimidation est incompatible avec le climat nécessaire à la réussite éducative. Il appelle tous les acteurs de la communauté éducative et les citoyens à faire preuve de responsabilité. Les divergences d'opinion doivent s'exprimer dans le respect des règles du vivre ensemble, sans nuire à la mission essentielle de l'école. Fin de citation.
Et on reste dans le Nord. La mairie de Poumes, lauréate de la Palme Ifrecor 2025. La municipalité récompensée pour son projet en faveur de la préservation et la gestion durable des écosystèmes coralliens dans les Outre-mer. Le jury a décerné la Palme à ce projet d'atlas de la biodiversité communale pour son exemplarité, ses résultats, ses perspectives et ses atouts environnementaux et sociaux. Un atlas réalisé après 2 ans de travail de terrain. Pour le maire de Poumes, Henriette Tijin-Mahé, c'est une fierté pour la commune. Et vous l'entendrez demain matin à 6h15 dans la rubrique « Bonjour la Calédonie ». Les difficultés financières et budgétaires de la bibliothèque Bernheim, la Chambre territoriale des comptes annonce un plan de redressement de 3 ans pour l'établissement public, Jean-François Bonin.
En avril 2025, le conseil d'administration de la bibliothèque avait voté un budget en déficit et le haut-commissaire avait alors saisi la Chambre territoriale des comptes qui avait proposé à l'établissement public des mesures pour rétablir son équilibre budgétaire. Le 17 septembre dernier, la bibliothèque Bernheim a voté la décision modificative numéro 1 du budget, a priori insuffisante pour redresser ses finances puisque la Chambre territoriale des comptes constate que le budget demeure déséquilibré, ce qui nécessite donc un plan de redressement sur 3 ans. Il vise à réduire le déficit de 5 millions la première année, de 36 millions la deuxième et de 52 millions la troisième. La Chambre territoriale des comptes note également que le projet culturel, scientifique, éducatif et social 2026-2028 voté par le Conseil d'administration, toujours lors de sa réunion de septembre, notamment dans la perspective de l'ouverture de la nouvelle bibliothèque, n'inclut pas les conséquences financières de l'intégration du nouveau bâtiment et n'est pas en cohérence avec le plan de redressement. Ce plan de redressement de 3 ans fera l'objet chaque année d'un avis de la Chambre territoriale et, le cas échéant, de l'intervention du haut-commissaire jusqu'à rétablissement de l'équilibre budgétaire.
RRB, il est 18h04.
Les start-up calédoniennes voyagent et cette fois, l'une d'elles s'envolera pour Hong Kong. En 2014, la société Huawei a créé un concours soutenant l'innovation, le Digital Impulse. La nouveauté cette année, c'est qu'une catégorie Women for Innovation a été créée. Elle est réservée aux femmes entrepreneurs et l'une d'elles sera calédonienne. Il y a un mois, le concours Women in Tech, organisé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a récompensé des projets digitaux développés par des femmes. Il a mis en avant 5 finalistes, de l'application touristique beauté aux plateformes de santé, de jeux vidéo, même de récolte de cheveux pour absorber les hydrocarbures. L'une de ces entrepreneurs s'envolera bientôt pour la Chine. Une place a été réservée aux côtés des 10 autres entreprises françaises qui participent au Digital Impulse. La lauréate embarquera en janvier 2026 pour Hong Kong. Et les sciences juridiques et économiques au cœur d'une semaine riche en événements à l'UNC. Jusqu'à vendredi, l'université ouvre ses portes aux chercheurs, étudiants, professionnels et citoyens pour découvrir des conférences, colloques et soutenances de thèses. Ce matin, c'est un colloque consacré à la justice transitionnelle qui a ouvert l'événement, un sujet qui a particulièrement intéressé les participants.
Je suis étudiante en Master 1 de droit privé à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et c'est dans ce cadre que j'assiste au colloque qui est très intéressant, surtout en vue de la conjoncture actuelle et avec tout ce qui s'est passé avec les exactions de l'année dernière. C'est intéressant de s'interroger sur l'avenir du pays, notamment institutionnel et juridiquement, comment ça peut se passer si on veut développer la Nouvelle-Calédonie.
Je pense que c'est vraiment quelque chose que le pays a besoin parce que je pense qu'il faut que certaines paroles se libèrent et qu'on arrive un petit peu à se parler les uns les autres.
Le thème de la justice transitionnelle sera étudié encore cet après-midi, mais aussi mercredi, avec une partie pratique au travers d'une pièce de théâtre. Le programme des conférences est à retrouver sur le site internet de l'UNC. Notez maintenant ces 2 rendez-vous sur notre antenne. Depuis le début de la saison chaude, de nombreux requins ont été signalés près des côtes calédoniennes. Des attaques de squales ont également été recensées en Australie, dont une jeudi dernier ayant fait 1 mort et 1 blessé. Y a-t-il une prolifération de requins dans le Pacifique? Est-ce un phénomène normal en cette période ou faut-il s'en alarmer? Autant de questions que nous poserons à notre invité demain matin. Claude Maillot, médecin généraliste et spécialiste de la faune marine dangereuse tropicale, sera notre invité à 7h30. Et la province sud a publié les résultats de l'enquête « Bien dans mes claquettes ». Elle a été réalisée auprès des jeunes de 3e pour connaître leurs habitudes de vie et notamment leur rapport aux addictions, à la pratique sportive ou encore leur santé mentale. Demain, nous consacrerons notre magazine citoyen à cette étude. Pour en parler, nous recevrons Gilles Brial, 2e vice-président de la province sud en charge de l'enseignement, Carmela Ribouya, chargée de mission stratégie jeunesse, Erika Hartmann, épidémiologiste, et Thierry Vincent, inspecteur académique, établissement et vie scolaire. Une émission citoyen à retrouver demain midi sur Radio Rythme Bleu. Et enfin, cette information du changement en vue au consulat d'Australie en Nouvelle-Calédonie. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a annoncé la nomination de Megan Bainbridge à ce poste. Elle parle français et l'arabe et elle a auparavant exercé des fonctions au Liban et en Afghanistan. Elle va donc remplacer Annelise Young, qui était en poste en Calédonie depuis le 20 juin 2022.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et il y a tout juste une semaine, nous lancions l'opération Au cœur de Noël, une opération qui nous tient à cœur autant qu'à vous pour faire briller les yeux des enfants et notamment ceux dont les familles rencontrent des difficultés. Merci à vous tous qui êtes passés, déposés, déjoués à la radio. Et c'est encore le cas de Pascal cet après-midi qui est venu avec sa fille. Écoutez-la.
Pour moi, c'était important d'offrir des petits cadeaux parce que mes enfants sont grands, mais il y a encore des petits qui ont besoin d'avoir un petit cadeau sous le sapin de Noël. C'est le geste de la solidarité, c'est aussi la générosité de la Nouvelle-Calédonie qui parle à travers de nous tous. Et en ces temps qui ne sont pas toujours faciles pour tout le monde, c'était important. C'est sans prétention, mais je mise surtout le geste qui est fourni de chacun pour que ça fasse du volume. Et puis, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Et merci à Pascal qui est venu avec sa fille. Effectivement, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Mais nous avons encore besoin de votre générosité pour que Noël soit une fête pour tous. Je rappelle que tout ce que vous apportez sera distribué aux familles que suivent nos partenaires, la Croix-Rouge, le Secours catholique et la Société Saint-Vincent de Paul, avec le concours bien sûr de la table ronde française. Vous pouvez passer à la radio, déposer vos cadeaux 7 jours sur 7, de 7h à 19h. Nous serons bien entendu ravis de vous accueillir. Il est 18h passé de 9 minutes, seconde pause avant de voir tout le sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
Et le sport est un grand moment pour le handball calédonien. Suzanne Wajoka joue son premier championnat du monde avec l'équipe de France A, Léo Fichou.
Et la calédonienne a d'ailleurs parfaitement commencé la compétition sous le maillot bleu en terminant meilleure marqueuse des deux premières rencontres contre les Tunisiennes puis contre les Chinoises. Un total de 17 buts inscrits pour ces deux premières sorties. Nous en avons parlé ce midi dans le MAC des sports. Nos invités étaient Yann Collet, le président de la Ligue, et Olivia Vaita Vaitanaki, la responsable du pôle esport. Je vous propose d'écouter Olivia Vaitanaki. Pardon.
Suzanne fait partie de cette génération qui est là pour renouveler l'équipe de France et d'essayer de maintenir le niveau qu'il y avait sur les années précédentes, en sachant qu'elles sont tenantes du titre. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités. Elles ont commencé brillamment leur mondial avec la Tunisie et la Chine. Et là, on va rentrer de plus en plus dans des matchs sérieux où on va pouvoir voir si elles sont au niveau attendu au mondial.
Nous avons également évoqué l'actualité du handball calédonien en général, le bon bilan de 2025 à la fois pour le haut niveau et pour les actions afin de démocratiser la discipline sur le territoire, avec également les perspectives pour 2026. Le prochain match de l'équipe de France avec bien évidemment Suzanne Wajoka sous le maillot bleu, ce sera mercredi matin dans le championnat du monde face à la Pologne. Vous pouvez d'ores et déjà réécouter dans son intégralité l'émission qui avait été présentée, interviewée par Mickaël Juneski ce midi.
Et notons un nouvel événement international qui démarre ce soir sur le territoire, l'Open de squash BNP Paribas, organisé par le DUMBASC en hommage à Enzo Corigliano, Léo.
Une édition effectivement dédiée à ce jeune espoir du squash calédonien tragiquement disparu, c'était en 2020, une compétition qui se déroulera à Auteuil dans la salle qui porte désormais son nom. Cette année, une soixantaine de joueurs seront présents, les meilleurs du territoire, mais aussi des jeunes prometteurs et puis 4 internationaux. Yann Bouvet est le président du Dumbea Squash Club.
Notamment de Nouvelle-Zélande. Alors, ils ne sont pas que de Nouvelle-Zélande. C'est Grande-Bretagne et Samoa et Tahiti. Mais ils jouent en Nouvelle-Zélande. Pour tous, ils sont professionnels et sont des jeunes joueurs. Donc, c'est les futurs grands joueurs de demain. Ça commence aujourd'hui par la présentation. Donc, c'est les premiers matchs sont toujours un peu plus faciles pour des joueurs de ce calibre. Ça va permettre au fur et à mesure de la semaine de les opposer aux meilleurs calédoniens. On a notre champion en titre, Nicolas Masnec, Laurent Guépy, qui a été vice-champion de France cette année, c'est important. On a une championne du Pacifique en Calédonie, Vanessa Quash. Et puis on a des jeunes qui poussent. C'est à la fois pour les Calédoniens une façon d'augmenter leur niveau. Hein. Et puis, c'est une grosse préparation parce que dans un an, il y a les Jeux du Pacifique. Donc, tous les meilleurs Calédoniens seront là.
Les premières parties de ce tournoi international de squash débutent ce soir. Les premières ont démarré à 18h à la salle Enzo Corigliano de Dumbea. Les finales sont prévues samedi en fin de journée.
Merci Léo Fichou. Et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et voyons toute la météo avec vous, Pierre.
Cette nuit, le ciel restera peu à passagèrement nuageux sur la pointe nord et au Loyauté, avec un temps généralement sec, hormis autour de marées où quelques gouttes restent possibles. Ailleurs, le ciel sera plus dégagé, des averses issues du relief pourront toucher par moments le littoral ouest, la pointe sud, ainsi que le sud de la côte est. Au fil de la nuit, les éclaircies gagneront la moitié nord de la Grande Terre. Le vent de secteur ouest soufflera entre 5 et 10 nœuds, sauf sur l'extrême sud-est, l'île des Pins et Marais, où il se renforcera entre 10 et 15 nœuds en fin de nuit. Les températures minimales resteront élevées pour la saison, entre 19 et 26 degrés. Demain matin, des nuages porteurs d'averses éparses s'attarderont sur le sud-est et l'île des Pins. Ailleurs, le temps restera sec avec un soleil largement dominant, malgré quelques nuages déjà accrochés au versant de la chaîne. Le vent de nord soufflera entre 10 et 15 nœuds sur le sud-est, Marais et Lifou, et pourra même dépasser les 15 nœuds sur l'extrême sud et l'île des Pins. Ailleurs, il restera proche de 10 nœuds, tandis que sur l'ouest, les brises de mer s'installeront en cours de matinée. Et côté marée, elle se rabasse ce soir vers 23h12. Elle sera haute demain matin vers 5h36, avant une basse mer en fin de matinée, prévue vers 11h23.
Eh bien, merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.